Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de sa compassion. Dieu compatissant et clément. Dieu compatissant et qui fait grâce. Et c'est à partir du psaume 103 que je veux apporter cette méditation, car ce psaume 103 commence par une action de grâce. Ensuite, David proclame sa foi. Et enfin, pour terminer, c'est encore action de grâce. Alors, je lis les 5 premiers versets du psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que tout mon être bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses, aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de bien ta vigueur et tu rajeunis comme l'aigle. David introduit ce psaume par le témoignage de sa reconnaissance pour les nombreux bienfaits de Dieu envers lui. Il le fait vraiment avec ardeur, car il commence par s'interpeller lui-même en disant « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Mais il n'utilise pas seulement ses lèvres, il rassemble toutes ses énergies et mobilise son être entier en proclamant « Bénis son nom très saint, tout mon être ». On peut se demander si David n'avait pas présent à l'esprit ce premier et grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». En tout cas, avant de manifester sa reconnaissance pour les bienfaits reçus, c'est d'abord la personne de Dieu, son nom sacré, que le psalmiste veut glorifier. Comme l'enseignait Jésus à ses disciples, autrefois et aujourd'hui à nous, toute approche de Dieu débute par la bénédiction de ce nom. Père, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, David fait mention des bienfaits qui comblent son existence et rendent sa vie heureuse. Il ne veut oublier aucun de ses bienfaits. En effet, ce qu'il désire est que sa démarche soit agréable au Seigneur. Il s'agit, c'est-à-dire, de lui offrir un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, oui, mais c'est aussi l'offrande de son être lui-même, car il reconnaît qu'il a été personnellement pardonné, il a été personnellement guéri, il a été personnellement sauvé des dangers mortels. De plus, il a conscience d'être entouré de grâce qui contribue à ranimer sa vigueur quotidiennement et à renouveler sa jeunesse. Mais David, qui ne veut oublier aucun des bienfaits de Dieu, reconnaît que les grâces divines ne lui sont pas réservées exclusivement. Il se souvient que lui-même appartient au peuple avec lequel le Seigneur a fait alliance. Or, David se rend bien compte du contraste énorme existant entre les deux partenaires. D'un côté, un Dieu saint et fidèle, de l'autre, un peuple pécheur et inconstant. Pas facile comme situation. Comment donc tenir les engagements de l'Alliance dans ce cas? Malgré cet obstacle majeur, le psalmiste constate que le Seigneur continue pourtant de porter ce peuple et même de lui manifester sa bonté sans le détruire. En un certain sens, cette mystérieuse réalité rappelle l'expérience de Moïse lorsqu'il a vu au Sinaï un buisson en feu sans se consumer. Oui, la présence du Seigneur parmi nous, son peuple, quels que soient nos penchants, qui reviennent parfois, il est là, elle est là, cette présence, et il continue de nous faire du bien. Bizarre, mystérieux. Or, après sa sortie d'Égypte, le peuple avait offensé Dieu très grandement, en péchant par idolâtrie. C'était le triste épisode du veau d'or. Et Moïse avait intercédé ardemment afin d'apaiser la colère du Seigneur. En réponse aux supplications du prophète, Dieu passa devant lui et proclama son nom, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Cette proclamation est fondamentale au sens premier du terme, car c'est une révélation sur laquelle va se fonder la pérennité de la relation de Dieu à son peuple. Elle présente également un intérêt capital dans l'annonce de l'Évangile, car c'est cet Évangile qui nous dévoile jusqu'où Dieu peut aller et jusqu'où il est allé pour faire éclater la grandeur de sa compassion et de sa clémence à l'égard de l'humanité tout entière et pas seulement à l'égard d'un peuple. C'est là l'orientation que j'ai choisie pour la méditation de ce matin. La grandeur de Dieu, de sa miséricorde dans le peuple passé et aujourd'hui encore. Et pour cela, j'ai compris, je crois comprendre, que le Seigneur m'appelait à changer de regard sur sa personne, qu'il m'appelait à accueillir ses œuvres de miséricorde, de ne pas faire l'arrogant, l'orgueilleux, que le Seigneur m'appelle à reconnaître ma fragilité quand il fait compassion, quand il fait grâce. David, après cette action de grâce, proclame sa foi dans le Dieu compatissant et miséricordieux. Et il le fait en présentant une image de Dieu sous deux aspects qui paraissent contradictoires, mais qui sont complémentaires. D'une part, David va présenter ce que Dieu n'est pas, et ensuite ce que Dieu est. Il dit que ce Dieu compatissant n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. C'est cela, il n'est pas cela. Frères et sœurs, je dois vous avouer que pendant longtemps, et même maintenant j'ai encore du mal, pendant longtemps, j'ai eu ces images fausses de Dieu. J'ai été pris en flagrant délit en lisant les paraboles, certaines paraboles de Jésus qui parlaient des serviteurs. Et le premier, c'est celui qui avait reçu un seul talent, dans la parabole des 10 talents, Matthieu 24-25. Ce serviteur qui n'avait reçu qu'un seul talent l'avait enfoui dans la terre. Et au retour du maître, il a dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. » Et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. C'est ainsi que ce serviteur s'adressait à son maître. Mais nous savons souvent que dans les paraboles de Jésus, le personnage principal, le maître ou le père, fait référence à Dieu, ou même le juge, même s'il parle de juge unique, le Seigneur a en arrière-plan le vrai juge. Et là, l'attitude de ce serviteur vis-à-vis de son maître, j'ai reconnu que c'était mon attitude vis-à-vis de Dieu. Je savais que tu es un homme dur, exigeant. Oui, j'avais cette image de Dieu. Je n'avais pas compris que Dieu m'accordait un talent et m'appelait à un service sur mesure, selon ma capacité. Je pensais qu'il me brimait et qu'il était exigeant par-dessus. Je n'avais rien compris. Alors que le Seigneur, ce maître, me faisait confiance. Ce n'était pas un homme dur, mais il m'associait à son service. Il m'accordait juste ce qu'il me fallait. Je ne devais pas me comparer aux autres. Ah oui, à celui-là, tu en as donné 5 et même 10, et à moi un seul. L'autre cas de serviteur qui me concerne, c'est celui du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Au retour du jeune frère, ce débauché, le fils aîné n'a pas voulu participer à la fête et il a dit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils que voilà est revenu, pour lui tu as tué le veau gras. Frères et sœurs, si dans la première parabole, la peur et l'orgueil avaient paralysé le serviteur, il n'a rien fait. Ici, dans cette parabole, la peur aussi a entraîné le fils aîné dans l'activisme. Pour plaire à son père, pour mériter. Et il n'avait pas compris qu'il avait tout gratuit. Le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Moi, je n'avais pas toujours compris cela. Je pensais qu'il fallait faire et faire encore pour être bien aux yeux de Dieu et aussi aux yeux des hommes. Et puis, il y a un troisième élément qui n'était pas une parabole, mais qui concernait les 10 apôtres qui avaient réagi contre 2 d'entre eux, Jacques et Jean, qui avaient osé demander au Seigneur d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. Alors les 10 autres s'indignaient, comme on dit vulgairement, ont voulu remonter les bretelles à ces 2-là. Et Jésus leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Ainsi, ces 10 apôtres avaient une image fausse de la royauté de Dieu. Image d'autorité qui écrase les autres, hein, qui leur passe un savon, pardonnez-moi cette expression. Ce n'est pas ainsi que Dieu est. Là encore, je n'avais pas compris cela. Et non seulement avec mes enfants, souvent, j'ai voulu faire le dur, qu'est-ce que c'est de l'autorité, mais aussi autrefois, quand j'étais pasteur à Paris, bien souvent, il m'est arrivé de penser qu'il fallait montrer les muscles. Hélas, le petit Maurice. Je n'avais rien compris. Dieu n'est pas tout cela. C'est un Dieu compatissant, qui n'accuse pas sans cesse, qui ne garde pas rancune pour toujours, qui ne nous traite pas selon nos péchés, qui ne nous rend pas selon nos fautes. Ça paraît scandaleux. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Nous savons que de nos jours, pas seulement de nos jours, mais ça a toujours été, quand un tribunal prononce un verdict d'acquittement ou même simplement d'une peine légère pour quelqu'un qui notoirement était un criminel, un violent, nous connaissons les réactions. Mais c'est pas possible que cette personne soit graciée. C'est pas possible qu'il ait eu une peine si légère. Oh, ça, on n'est pas d'accord. Et Dieu déclare par David, « Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. » Jésus a été critiqué justement parce qu'il accueillait les publicains, des gens de mauvaise vie. Et Jésus leur faisait remarquer que c'était la miséricorde qui plaisait au Seigneur. Le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Et Paul, lui, il déclare tout simplement, le Seigneur fait miséricorde à qui il veut. Sous-entendu que le Seigneur ne veut pas fournir d'explication sur ses décisions de faire grâce, d'être compatissant et miséricordieux. Oui, le Seigneur nous appelle, m'appelle, à accueillir ses œuvres de miséricorde. Et c'est là le second volet de ce que Dieu est. David nous dit, « Autant les cieux dominent la terre, s'élèvent au-dessus de la terre, autant sa fidélité dépasse ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. » J'ai cru comprendre que dans ces versets, Dieu visait principalement le péché, Dieu sanctionnait le péché, Dieu ne s'adressait plus tellement aux pécheurs, comme je le disais tout à l'heure, qu'il pardonne, à qui il ne garde pas rancune. Ici, c'est le péché qui est visé. Et pour apprécier la portée de l'intervention de Dieu, nous devons nous rappeler justement ce qu'est la situation insupportable provoquée par le péché. Dans plusieurs psaumes, David évoque les souffrances physiques et morales qu'il éprouve à cause de ses fautes. Et au psaume 38, il avoue même, « Mes fautes ont dépassé ma tête. Comme un pesant fardeau, elles pèsent trop sur moi. » Or, ici précisément, l'action bienveillante du Seigneur va consister en quelque sorte à remplacer cette puissance dominatrice écrasante du péché par les bienfaits de son immense fidélité. En effet, David nous dit que la surabondante fidélité de Dieu s'élève aussi haut que les cieux, comme si elle s'amoncelait au-dessus des humains. Par conséquent, au lieu d'être écrasé par le fardeau du péché, la fidélité du Seigneur est sur ceux qui le craignent. La richesse de la fidélité de Dieu submerge le pécheur qui reconnaît ses fautes. Oui, Dieu ne tolère absolument pas le péché. Au contraire, il l'éloigne le plus possible de ses fidèles. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. Il le chasse, loin de sa vue. Il ne veut plus s'en souvenir. Il en libère l'homme totalement. Le livre du Lévitique rapporte justement un rite accompli lors de la fête du Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le jour de l'expiation. Voici ce qui se passait, entre autres. À l'entrée de la tente de la rencontre, cette tente qui a été dressée dans le désert, deux boucs sont placés devant le Seigneur. L'un sera offert en sacrifice pour le péché, mais l'autre n'est pas immolé. Il est chassé dans le désert, emportant les péchés du peuple, après que le rite d'expiation aura été fait sur lui. Donc, ce bouc emporte tous les péchés du peuple dans le désert aussi loin que possible. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu manifeste sa compassion et sa clémence envers tous les humains, pas seulement à l'égard d'un peuple. Il rend justice à tout pécheur par l'intermédiaire de l'agneau sans tache, Jésus-Christ, qui enlève et expie les péchés du monde. Dans la première lettre de Jean, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est digne de confiance pour nous les pardonner, parce que Jésus-Christ est pour nous la victime expiatoire pour nos péchés. » Et il ajoute, « Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est immense. Il y a là un capital de pardon qui attend tous les hommes. Nous ne sommes donc pas traités selon nos péchés, comme nous l'aurions mérité, mais le Fils de Dieu, lui, a été traité comme le péché, nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Il a été traité comme le péché même, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc ce psaume nous parle de ce que Dieu n'est pas et de ce qu'il est dans sa compassion, dans sa miséricorde. Mais posons-nous la question, mais qu'est-ce qui motive ainsi la compassion du Seigneur? Le Seigneur m'appelle à reconnaître ma fragilité. Puisqu'il l'a dit, comme le Père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, de quelles pattes nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Le premier motif de la compassion de Dieu à notre égard, c'est qu'il se souvient que nous sommes des êtres faibles. Nous ne sommes que poussière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parole d'Abraham lorsqu'il plaidait pour Sodome et Gomorre. Il dit, « Seigneur, excuse-moi, je ne suis que cendre et poussière, et puis j'ose te demander des choses et des choses. » Nous sommes que cendre et poussière. Et Dieu s'en souvient. Nous l'oublions peut-être parfois, emportés par nos sentiments. Mais lui, Dieu, il se souvient que nous sommes poussière. Donc ce qui motive Dieu, c'est notre faiblesse. Je prends plaisir à agir sur terre avec bonté et fidélité, dit-il dans Jérémie 9, 23. Il dit aussi toujours dans Jérémie, reviens, Israël infidèle, déclaration du Seigneur. Je n'aurai plus sur vous un regard sévère, car je suis fidèle, déclaration du Seigneur. Je ne garde pas rancune pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Dieu n'accuse pas pour toujours. Il nous demande simplement de reconnaître notre faiblesse et notre faute. Le prophète Osée, de même, nous parle de la compassion de Dieu à l'égard des faibles. Il nous apprend que le Seigneur tient compte de nos limites, de notre immaturité. Et comme on vient en aide à un enfant qui trébuche en faisant ses premiers pas, ainsi Dieu se montre plein de tendresse quand nous défaillons spirituellement. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit aussi que lorsque nous nous égarons, Dieu ne fait pas peser sur nous tout le poids de son irritation. Il nous prend plutôt en pitié et nous traite comme des fils. Oui, à la manière d'un père soucieux de bien éduquer ses enfants, il avertit, il corrige. Au lieu de détruire, il déploie en tous sens l'immensité de son amour, amour qui construit, qui répare les brèches, qui rétablit la communion, qui enlève les souillures et rend parfait. Car nous dit cette lettre aux Hébreux, Dieu veut que nous ayons part à sa sainteté. Si je comprends bien, Dieu ne comptabilise pas mes fautes pour ensuite me les mettre sous le nez. Il n'accuse pas ainsi. Mais Dieu, s'il se rend compte de mes fautes, c'est pour faire le tri en disant, bon ça, je n'en veux pas à la déchetterie. Dieu tient compte de ces péchés-là, mais pour les enlever. Ou bien, je ne veux pas de ce désordre dans ta chambre, comme une maman dit à son enfant, je ne veux pas de désordre. Tout cela doit être bien rangé et je vais t'aider à le faire. C'est cela la pédagogie de Dieu avec nous quand nous trébuchons. Il nous éduque, il nous forme, il nous façonne. Enfin, un dernier élément pour répondre à cette question, qu'est-ce qui motive la compassion de Dieu? Un dernier élément, mais pourtant, il aurait dû être mentionné le premier. C'est l'honneur du nom de Dieu. Il a compassion de nous pour l'honneur de son nom. Au lieu de se montrer sévère, inflexible, il use de patience envers nous. Voici ce qu'il dit, ce que dit Dieu par la bouche du prophète Osée. Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm? Te rendrais-je semblable à Tseboïm? Tseboïm, c'était l'une des localités qui était associée lors de la destruction de Sodome et de Gomorre. Donc, te rendrais-je semblable à Tseboïm? Destruction massive. Et Dieu continue par la bouche du prophète. Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne viendrai pas pour détruire Éphraïm. Non, je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Voilà les sentiments qui animent Dieu pour l'honneur de son nom. Il n'est pas un homme, il est saint au milieu de nous. Il ne vient pas avec sa fureur, non. Il ne le fait pas. Effectivement, frères et sœurs, au temps fixé, nous dit l'Évangile, Dieu est venu parmi nous. Il a pris la fragilité humaine pour vêtement. Il est venu parmi nous et il n'a pas brisé le roseau froissé. Il n'a pas éteint le lumignon qui fumait. Au contraire, en lui était la vie. Et il a communiqué cette vie à tous ceux qui vivaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il est devenu leur sauveur et il les amène au Père miséricordieux et compatissant. Pour conclure, frères et sœurs, je dirais ceci. Finalement, ce psaume nous a permis de contempler l'immensité de la fidélité de Dieu. Dans l'espace, d'une part, puisqu'elle s'élève de la terre jusqu'aux cieux et s'étend de l'Orient à l'Occident. Dans le temps, d'autre part, puisqu'elle est depuis toujours et à toujours. Alors que la colère de Dieu ne dure pas à toujours, alors que l'existence humaine est aussi éphémère que celle de l'herbe, la bienveillance de Dieu, en revanche, subsiste de génération en génération. Les affirmations du psalmiste trouvent leur plein accomplissement en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il nous a fait connaître la richesse de la bonté et de la fidélité du Père envers les pécheurs tels que nous. Il s'est abaissé jusqu'à descendre dans l'abîme du séjour des morts. Mais, de même que la fidélité de Dieu s'élève au-dessus de nous, de même, celui qui était descendu est monté. Il est monté plus haut que les cieux, afin de remplir toutes choses, nous dit l'apôtre Paul. Sachez ainsi que cette position élevée du Seigneur nous abrite. Cette position est efficace. Elle nous assure une couverture, une protection parfaite, un salut éternel. Car la fidélité de Dieu est un bouclier et une armure. Psaume 91, 4. Tout cela nous donne l'impression, ou plutôt nous communique la conviction, et pas une impression, la conviction d'une plénitude. Oui, l'univers est désormais rempli de l'amour de Dieu. Paul n'encourageait-il pas les chrétiens d'Éphèse en priant pour eux, en leur disant « Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez comblés jusqu'à la plénitude de Dieu. » Voilà ce que fait la compassion de Dieu pour nous par Jésus-Christ qui est descendu et qui maintenant remplit l'univers. Aussi, le psaume se termine-t-il par la proclamation logique du règne de Dieu sur toute chose. Comme au début, David proclame à la fin du psaume, « Mon âme, bénis le Seigneur. » Cependant, nous constatons que cette injonction à rendre grâce a pris de l'ampleur. Elle n'est plus une affaire strictement personnelle et privée, mais elle s'étale maintenant publiquement et à toute la création dans le ciel et sur la terre. Nous assistons à une louange universelle au Dieu créateur. Il est vraiment digne de toute gloire, lui dont la royauté domine tout, lui qui est puissant par ses œuvres et imposant par sa majesté. Oserais-je supposer que ceux qui l'ont racheté apporteront une note particulière à ce concert universel? Car, contrairement aux autres créatures, ces rachetés ont fait l'expérience de la compassion et de la grâce du Seigneur. C'est pourquoi leur note est particulière dans ce concert universel. J'imagine encore, frères et sœurs, qu'à entendre ces chants de reconnaissance de la part des rachetés, j'imagine que Dieu se réjouit énormément, puisque c'est Jésus lui-même qui a affirmé qu'il y aura dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Qu'il daigne donc au Seigneur lui-même, qu'il daigne donc nous remplir, nous rendre capables de lui offrir continuellement un sacrifice de louange et de faire de notre vie entière une offrande qu'il agrée. Amen.